L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial en fin de semaine, les termes du débat européen. Une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui dans un pays de l'Union européenne. À l'ordre du jour ce soir, Pays-Bas et coalition. Six mois après les élections législatives qui ont vu le parti populiste et ou d'extrême droite, on en parlera d'ailleurs avec nos invités, le PVV et son leader Geert Wilders, déjà vieux routier de la vie parlementaire néerlandaise, arrivé pour la première fois en tête des votes avec 23% des voix et 37 sièges sur 150, la coalition gouvernementale n'a toujours pas été formée. Il faut dire que l'échec des partis traditionnels et la montée des formations hors système perturbent un système bicaméral élu à la proportionnelle intégrale et élisant pour 4 ans une deuxième chambre qui est le cœur de la démocratie néerlandaise. Mais malgré sa victoire, Geert Wilders n'est pas parvenu encore à convaincre d'autres formations de droite ou populistes à se joindre au PVV pour gouverner, même en étant minoritaire, pour gouverner ce pays que sont les Pays-Bas. Nous sommes en compagnie de Christophe De Vock. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique. Et vous êtes auteur de l'étude parue ce mois-ci, titrée donc « Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen » par cette même Fondation pour l'innovation politique. Et vous êtes professeur affilié à Sciences Po. Avec nous à distance, Caroline de Gruyter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste néerlandaise et spécialiste des questions européennes et autrice d'un ouvrage « Monde d'hier et monde de demain » en 2023 aux éditions Actes Sud.
De hoop van Nederland is dat de mensen.
L'espoir des Pays-Bas est de récupérer notre pays, que les Pays-Bas redeviennent néerlandais, que le tsunami de l'asile et l'immigration soit limité, que les gens aient à nouveau plus d'argent dans leur portefeuille que ce que nous dépensons depuis des décennies pour des absurdités, que la sécurité soit rétablie aux Pays-Bas, que les soins de santé soient remis en ordre. Et les espoirs de toutes ces personnes, 2 millions de personnes qui ont voté pour le PVV aujourd'hui, nous ferons de notre mieux pour les réaliser. Nous voulons gouverner et avec 35 sièges, nous allons gouverner. Le PVV va le faire.
Le PVV va le faire.
Vous venez d'entendre Geert Wilders, le chef du parti donc pour la liberté, le PVV, en novembre dernier, alors qu'il venait de remporter les élections législatives, mais une victoire un peu difficile parce que il ne représente, étant donné l'émiettement politique aux Pays-Bas, il ne représente qu'à peine un quart des voix, et donc à partir de là, il faut fonder une coalition. C'est une tradition aux Pays-Bas que ces coalitions, Christophe De Vogt.
Oui, ça c'est vraiment le kick de base de la vie politique néerlandaise. C'est comme on a une proportionnelle intégrale, par définition, on a une coalition et on a traditionnellement aussi de longs mois de négociations. La précédente coalition, alors qu'elle avait reconduit les mêmes partis, a mis près d'un an à se former. Donc là-dessus, en soi, c'est pas incroyable. Évidemment, ce qui est inédit, c'est que le parti populiste soit arrivé en tête. On en discutera. En tout cas, le PVV est arrivé en tête et que, évidemment, c'est pas une coalition comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Entre ses appétits, ses ambitions et les réticences vis-à-vis de ce parti qui a été longtemps quand même ostracisé par la classe politique comme dans beaucoup de pays d'Europe occidentale. Donc, comme on dit en néerlandais, qui ira en mer avec lui? Il y a une expression pour dire qui ira en mer avec lui chez ce peuple de marins. C'est évidemment une question fondamentale. Qui montera dans le bateau, on dira. Oui. Et ça, eh bien, c'est intéressant parce que on en reparlera. On vit un moment particulièrement critique de cette formation ou non-formation de la coalition.
C'est-à-dire que normalement, c'est le 15 mai, donc la semaine prochaine, que devraient aboutir ces négociations, ou elles devraient aboutir avant ce 15 mai, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe?
Mais alors justement, ça c'est ce qu'on appelle dans l'alchimie politique néerlandaise les informateurs, ceux qui sont chargés de voir quelles sont les possibilités de coalition, quelles sont les bases d'un accord de gouvernement possible. Les deux informateurs actuel, qui succède à deux autres déjà, il y a eu trois rounds d'informateurs, eh bien disent, écoutez, il faut quand même s'arrêter un jour. Le 15 mai, on constate l'échec ou la réussite. Et là, qu'est-ce qui se passerait-il? Sans doute, on tenterait, si c'est un échec, on tenterait de trouver une autre coalition possible, mais les résultats sont tels, c'est ce que j'essaie de montrer dans la note, que c'est pas du tout évident de trouver une majorité alternative. C'est même, selon moi, impossible. Voilà.
Caroline de Gruyter, est-ce que, puisque le titre de cette note pour la Fondation pour l'innovation politique, signée donc Christophe De Vocq, est « Victoire populiste aux Pays-Bas », est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse, puisqu'il dit que c'est un parti populiste, le PVV, et que beaucoup, y compris dans les médias français, le qualifient évidemment d'extrême droite? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette différence entre parti populiste et parti d'extrême droite?
Voilà, c'est une discussion qu'on ne terminera jamais. Mais ce qui est vrai est que Geert Wilders est assez extrême. Hein.
En particulier sur les questions de l'immigration et sur les questions de l'islam, surtout, même s'il a modéré ses critiques. Enfin, modéré. Il a, disons, mis un peu de sourdine sur ses critiques sur l'islam. Tout de même, il est quand même très, très marqué de ce côté-là.
Ce qui est intéressant, en tout cas, il aime bien être dans l'opposition. Il a géré sa politique depuis les bancs de l'opposition pendant 25 ans maintenant. Il est un des hommes politiques avec plus d'expérience de tout le monde maintenant.
Ce qu'on a oublié, parce qu'effectivement, on le connaît plus récemment dans un pays comme la France, mais en fait, il est là depuis très longtemps. Il a été assistant parlementaire, puis ensuite élu, et ça fait maintenant 25 ans qu'il est élu, effectivement.
Oui, mais du moment qu'il a gagné les élections en novembre, bon, il a eu un quart du vote, hein, et il s'est comporté un peu différemment. Parce qu'il a bien compris qu'il devait gouverner dans une grande coalition, parce qu'avec 25%, on ne peut pas gouverner. Donc, il a modéré ses positions. Il a même dit, le soir même, il a dit, mais bon, on ne peut pas fermer les frontières, donc on va mettre ça dans le frigo, ce programme. Et on peut peut-être... Et ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement la même chose ce que dit Viktor Orban, le premier ministre hongrois. On peut peut-être changer la politique migratoire à Bruxelles. Mmh. Hein? Donc, il veut entrer en politique européenne. Il a toujours râlé contre l'Europe d'un podium national. Et maintenant, je pense, ses ambitions sont plus... sont nationales, bien sûr, aussi, mais aussi européennes. Donc, il a un peu modéré son langage. Et on peut très bien dire, finalement, qu'il y a quelques semaines, les négociations pour former en gouvernement avec trois autres pays de droite n'allait pas bien, et là il recommence sur Twitter surtout à insulter tout le monde, mais vraiment d'une façon méchante.
Et ça veut dire quoi qu'il ait recommencé à insulter tout le monde?
Ça veut dire qu'il n'en croit plus, peut-être qu'il a désespéré. Mais les derniers jours, c'est aussi intéressant, il n'envoie aucun tweet. Donc,
c'est à ça qu'on mesure.
En train de former quelque chose.
C'est à ça que l'on mesure les négociations qu'il faut mettre en œuvre, Christophe De Vocq, pour pouvoir faire une coalition. Est-ce que c'est cette modération temporaire, pourrait-on dire, de Geert Wilders, en particulier sur la question de l'islam, des étrangers, de l'immigration, etc., a à voir aussi peut-être avec la formation d'une nouvelle formation politique plus à l'extrême droite que lui-même, qui s'appelle le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet, qui, d'une certaine manière, replace, et vous faites d'ailleurs le parallèle dans votre note pour la Fondation pour l'innovation politique, replace un peu Geert Wilders, un peu comme le RN, avec une aile plus à droite, Reconquête en France, et donc ce Forum pour la démocratie de Thierry Baudet pour les Pays-Bas.
Oui, je crois que On ne va pas discuter, vous avez tout à fait raison, et Caroline de Reuter a parfaitement raison, je vais dans son sens, on ne va pas discuter sur le sexe des anges, oui, éternellement, extrême droite, pas extrême droite. C'est, en plus, comme historien, on sait que c'est un concept assez mouvant. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une dynamique, si vous voulez. Il faut raisonner en dynamique. Vous avez mentionné sa dynamique programmatique, et Caroline de Reuter a rappelé aussi son silence. Et sa capacité et sa volonté, je crois qu'il a une réelle volonté de gouverner, parce que quand même, il a 60 ans, quand on entre en politique, on a quand même envie un jour de gouverner, enfin, mm-hmm. il me semble.
Sauf peut-être Jean-Marie Le Pen en France, qui a montré qu'il ne le voulait pas.
Mais sa fille, elle a vraiment envie, je crois. Et lui, il est un peu passé en lui-même, du père à la fille, vous voyez ce que mm-hmm. je veux dire ? D'autant que cette comparaison s'impose, puisqu'il est, même s'il n'a pas de député européen actuellement, mais ces députés européens seront dans le même groupe que Marine Le Pen, et il est dans ce qu'on appelle identité et démocratie. Il est donc sur cette ligne, donc je dis populiste, en effet, parce que la deuxième dynamique, vous l'avez rappelé, c'est que comme il y a un parti qui est plus à droite que lui, ben, ça le ressent, je dirais, presque automatiquement.
Oui, puis parce qu'il y a une dimension sociale qu'il met en œuvre, comme d'ailleurs le souhaite du côté de la France le RN de Marine Le Pen, donc avec cette
très
idée
sociale.
D'attention effectivement aux minima sociaux, d'attention à ces questions-là, qui, d'une certaine manière, fait de ce parti un parti un peu particulier.
Et ça, c'est quand même un trait du populisme, si vous voulez. C'est-à-dire cette dimension à la fois souverainiste et sociale, ce qui est vraiment le très, très prononcé. Et c'est une hypothèse. Moi, j'ai même peut-être l'impression que là, il a un petit peu copié Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il a compris comment le chemin du pouvoir passait par un programme social et par une modération, je ne dis pas un renoncement, mais en tout cas une modération sur le discours sur l'islam. En matière d'immigration, néanmoins, moi, je crois qu'il y aura un accord uniquement, il faudra qu'il y ait une restriction quand même très forte de l'immigration et surtout aux Pays-Bas de la question du droit d'asile.
Parce que 400 000 entraient l'année dernière, c'est ça ?
C'est colossal. C'est-à-dire que ça, c'est pas assez rappelé dans le débat public. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que c'est quand même un pays un peu plus petit que la France et qu'il faudrait multiplier les chiffres par 3,5 pour avoir lieu. Et en France, il y a déjà tout un débat sur les 500 000 immigrants chaque année. Les Pays-Bas en ont eu 400 000 l'an dernier. Donc il y a un vrai sujet. Sans quoi on ne pourrait pas comprendre tout simplement le résultat des élections. Il y a un accord aussi assez large des formations de droite et de centre-droit qui pourraient faire coalition sur la nécessité de réduire l'immigration, mais à quel degré ? Là est la grande discussion. Et puis il y a de grands débats, parce que là on tombe sur la question du programme social. Jusqu'où va-t-on dans le social, puisque les autres partis, et notamment le Parti libéral qui était au pouvoir depuis 13 ans...
Donc c'était le parti de Marc Routeux qui lui a décidé de ne plus se représenter.
Absolument.
Et peut-être de briguer en juillet prochain le siège de l'OTAN à la place de Jens Stoltenberg. Et donc effectivement ce parti-là, il a été remplacé à ce poste-là par une dame en l'occurrence, et qui...
D'origine kurdo-turque.
Voilà, et qui peut-être effectivement n'a pas eu exactement la même attitude que lui, qui voulait absolument ne jamais passer d'accord avec le PVV de Geert Wilders. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire, Caroline de Gruyter, aussi qu'il y a, une déshérence de la gauche, parce que on peut dire que on parle là d'accord entre partis d'extrême droite, populistes et de droite pour un gouvernement de des Pays-Bas, mais d'une certaine manière, on se demande où est passée la gauche, qui représente quoi, un tiers des électeurs ces temps-ci après ces élections?
Bon, il ne faut pas oublier que la gauche, et c'est une liste combinée des social-démocrates gérée par Frans Timmermans, l'ancien commissaire européen du Green Deal, avec les Verts. Donc, et ce bloc a fini deuxième. Ils ont aussi gagné.
Oui, puisqu'ils ont un siège de moins, je crois, que le PVE ou
oui,
quelque chose comme ça.
Mais le problème est aussi que Monsieur Timmermans n'est pas. Ça sera difficile, je pense, de former un gouvernement centre gauche, parce que Monsieur Timmermans il n'est pas il est vu aux Pays-Bas comme à celui de Bruxelles. Et ceux de Bruxelles ne sont jamais très, très populaires. Malheureusement, parce que lui, il est l'autre homme politique avec beaucoup d'expérience. C'est le deuxième. en ce qui concerne cela. Donc si les négociations échouent, pour un gouvernement, une coalition sur la droite, ça sera, je pense, difficile de former un gouvernement centre-gauche parce que Geert Wilders, ça, il a très bien et fortement fait. Il n'a pas arrêté depuis fin novembre de dire « la nation a parlé, hein, ils me veulent ». Et on peut bien dire que 65% n'a pas voté pour lui et peut-être ne veut pas un gouvernement avec le PVV et son parti dedans. Mais la droite a clairement l'impression que c'est leur tour et pas le tour de la gauche.
Oui, on peut dire aussi, Christophe Devoc, qu'il y a l'immigration qui a peut-être poussé à l'élection à la première place du PVV, donc dans cette peut-être future coalition aux Pays-Bas. Mais il y a aussi d'autres questions qui sont liées, par exemple, à la question de l'écologie. Vous insistez dans votre note pour la Fondation pour l'innovation politique sur cette question de l'écologie, et que donc Frank Timmermans avait fondé une alliance avec les écologistes, et que les écologistes sont actuellement en difficulté, puisque depuis 2019, il y a un parti qui s'est créé, un parti d'agriculteurs qui proteste contre la fin de l'agro-industrie, qui était donc une des grandes richesses des Pays-Bas, pour le troc, pour une agriculture paysanne ou en tout cas moins agro-industrielle, et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, il y a tout un tas de gens qui ne votaient pas pour les partis les plus extrêmes qui ont pu justement rejoindre le parti de Geert Wilders.
Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, Laurent, je voudrais juste répondre à Caroline de Reuter sur quand même les perspectives. Il y a quand même trop de faits qui vont dans le sens de la droite. Alors je crois qu'il y a, deux types d'illusions aux Pays-Bas. Celle de Wilders qui pense qu'il a gagné tout seul, si j'ose dire, et qu'il devrait
alors qu'il n'a qu'un quart des voix.
Exactement. Mais celle de la gauche aussi qui oublie que la droite a gagné. Les droites ont gagné. C'est-à-dire que la gauche, en effet, par grand vent, atteint, vous avez mentionné, un tiers des voix. Mais par grand vent, c'est-à-dire que
On peut dire que dans un pays habitué aux coalitions, il peut y avoir des coalitions entre centre-gauche et centre-droit, par exemple, ça peut arriver.
Par exemple, mais quand vous avez, ce qui est rarement arrivé, un tel mouvement vers la droite, et surtout, qu'est-ce que souhaitent les Néerlandais, parce qu'on a quand même les sondages, les Néerlandais sont majoritaires pour souhaiter un gouvernement de centre-droit. Et c'est là où Wilders se trompe. Hein, c'est qu'ils pensent qu'ils veulent un gouvernement de droite dure. Non, ils veulent plutôt un gouvernement... En fait, la coalition qui est en train de se former correspond, d'ailleurs, on a les sondages, hein, à 48% des vœux des Néerlandais. C'est très en tête sur toutes les formules avec la gauche. Donc je crois qu'il ne faut pas remplacer les illusions de Wilders par celles des sociodémocrates qui, aux Pays-Bas, et ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, sont véritablement en perte de vitesse.
Oui, et puis par ailleurs, il y a cette question des agriculteurs, il y a cette question d'un changement fondamental de l'agriculture aux Pays-Bas, qui est vraiment un des pays de l'agriculture industrielle, pourrait-on dire, depuis très longtemps, et qui donc perturbe une vision presque de la société néerlandaise.
Et qui a gagné les élections sénatoriales, ce qu'on ne faut pas oublier.
Ce parti des paysans.
L'équivalent de notre Sénat, qui s'appelle la Première Chambre, ils ont raflé, ce qui ne s'est jamais vu, ce parti paysan a raflé toutes les provinces, vous imaginez, y compris les provinces les plus urbanisées du pays. Donc tout ça sont hautes, ce sont quand même des marqueurs très lourds d'un changement de centre de gravité politique. Encore une fois, il n'est pas à l'extrême droite, mais il n'est certainement plus au centre-gauche.
Oui, alors donc il y a ces questions de changement de centre de gravité, comme vous le dites, et puis peut-être aussi la perte des anciens partis, parce que la proportionnelle intégrale donne lieu à une explosion des partis. Combien de partis sont présents, 18 ou quelque chose comme ça?
Selon les élections, on est entre 15 et 20, si vous voulez. Là, on est à 15. Demain, s'il y avait une nouvelle élection, on peut revoir apparaître deux petits partis avec un ou deux députés. Donc, ça rend aussi le jeu politique très compliqué. On pourrait avoir une coalition avec, vous voyez, 5 ou 6 partis, mais c'est encore plus difficile à faire, évidemment. Donc, je crois que ça va être difficile, dans tous les cas, de trouver une solution. Et à ce moment-là, on irait vers de nouvelles élections. Mais là, justement, ce qui confirme un petit peu quand même la tendance générale, de nouvelles élections annonceraient un triomphe encore plus grand du PVV, qui actuellement est autour de 30% dans les intentions de vote. Alors que je sais bien que les sociaux-démocrates et les Verts, qui ont eu besoin de se coaliser pour arriver à faire la deuxième liste, eux, eh bien, seraient stagnants, voire baisseraient encore. Et je rappelle, encore une fois, qu'il y a 12 sièges d'écart entre le PVV et la deuxième liste.
Et ça n'est pas simplement parce que la Fondation pour l'innovation politique est classée en France à droite que vous tenez ce discours-là.
Au centre droit.
18h41 sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Christophe Devoque, qui est président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique, et de Caroline de Gruyter, qui est journaliste néerlandaise, spécialiste des questions européennes à propos, justement, des Pays-Bas et de la coalition politique qui prendra peut-être avant le 15 mai prochain, c'est-à-dire avant le milieu de la semaine prochaine, la possibilité d'avoir le pouvoir, mais ça n'est pas encore tout à fait sûr.
J'ai voté pour Geert Wilders. Quelque chose doit changer aux Pays-Bas. Dans quelques années, je voudrais acheter une maison, mais pour le moment, c'est très dur de le faire. Alors ce scrutin, c'est une bonne chose pour moi.
Je n'ai pas voté pour Wilders, mais ça me plaît. Beaucoup de gens aux Pays-Bas en ont assez que le gouvernement écoute tout le monde, sauf les citoyens néerlandais.
On peut être mécontent de la situation économique, de sa situation personnelle, mais ce n'est pas une raison pour réagir ainsi. Je suis inquiète pour l'avenir, pour tout le monde, et plus encore pour les immigrés.
France Culture, les termes du débat européen. Emmanuel Laurentin.
Alors cette question de la fragmentation, on vient d'entendre un reportage de Valérie Goriave sur Euronews avec en janvier dernier ceux qui avaient réagi justement aux dernières élections aux Pays-Bas en novembre 2023. Cette question de la fragmentation est une question importante. Est-ce que cela pose des questions, ne serait-ce que sur le changement du système politique, le changement de la Constitution? À un moment, Geert Wilders d'ailleurs avait parlé de faire évoluer la Constitution. Visiblement, ça fait partie des compromis qu'il a écarté, puisque maintenant il veut être beaucoup plus rassembleur qu'il ne l'était lorsqu'il était en campagne pour ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline de Gruyter?
Je viens de recevoir hier, mon billet de vote pour les européennes, et il y a 20 partis dessus. Et quand on imprime tout et déplie tout, là, on a des très 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 grands papiers. Hein. C'est incroyable quand on en novembre, pendant les élections nationales, il y avait 28 partis même. Il y a aux Pays-Bas, il y a un seuil très bas d'environ, je pense, 0,7% du scrutin. Donc, ça donne la prime aux petits partis. Et ce grand nombre de partis qu'on a maintenant, c'est un vrai inconvénient. Mais c'est très difficile de le couper, bien sûr. Mais ça explique aussi pourquoi vous avez choisi le mot « coalition » en attaché aux Pays-Bas. Parce que tout le monde, même les grands gagnants des élections, cette fois, c'était Geert Wilders. On verra ce qu'il sait tenir. Tout le monde est en minorité. Donc, on a toujours des gouvernements de 3, 4, parfois 5 partis au niveau national, mais aussi au niveau municipal, par exemple.
Vous assistez aussi parfois, Caroline de Gruyter, sur la question que La vision européenne des Pays-Bas, de petits pays dynamiques, etc., etc., libéral, qui est à la pointe justement pour les questions économiques en particulier, et puis fondateur de l'Europe bien évidemment, a changé depuis le Brexit, et que peut-être il y a des alliances qui n'étaient pas forcément attendues entre les pro-européens comme Emmanuel Macron et des leaders politiques des Pays-Bas qui peut-être sont moins critiques qu'ils ne l'étaient à une certaine époque par rapport à Bruxelles. Vous citiez tout à l'heure Geert Wilders. Est-ce que vous pensez que effectivement il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la place des Pays-Bas en Europe telle qu'elle est imaginée par les leaders actuels, et la possibilité que cette position européenne change par rapport à Bruxelles?
Oui. On a pris en très grand virage juste après Brexit, le lendemain, je voulais dire. Parce que souvent, quand un petit pays, comme les Pays-Bas, on s'appelle le plus grand des petits. Mais bon, quand on veut pousser quelque chose à Bruxelles ou bloquer quelque chose à Bruxelles, qu'est-ce qu'on faisait toujours? On appelait Londres. Parce que on fait partie. Oui, on fait partie. Il y a des cultures politiques qui se confrontent à Bruxelles, et les Pays-Bas font partie d'une culture très libérale. On est toujours en train de regarder les Anglais et aussi les Américains. Mais quand l'Angleterre nous soutenait, on était presque là. Hein. Mm-hmm. On demandait aussi, on appelait les Danois peut-être, les Suédois, qui étaient aussi qui sont aussi des nations commerçantes et libéraux. Alors, mais maintenant, on peut plus jouer le jeu. Donc, on fait des coalitions sur quelques thèmes. Et là, souvent, c'est très intéressant, les Pays-Bas, souvent, ils s'approchent de la France. Hein, on voit tout le temps dans le Thalys, ou maintenant l'Eurostar, soudain, on voyait des gens, des ministères,
des négociateurs
de La Haye, pour discuter avec leurs collègues à Paris. C'est très intéressant parce que ça s'est jamais produit avant.
Oui, c'est un changement.
C'est un changement. Et on le fait souvent parce qu'on est en désaccord avec les Allemands et on veut faire un bloc avec la France ensemble contre l'Allemagne. Ou vice-versa, ça se passe aussi. Il y a un très intéressant sondage du ECFR, the European Council on Foreign Relations. C'est un think tank à Berlin et un peu partout en Europe, qui a demandé aux decision makers un peu partout dans l'Union européenne si vous voulez pousser quelque chose ou bloquer quelque chose à Bruxelles, qui appelez-vous d'abord?
Ah, donc, oui.
Un, c'est Berlin, de loin. Et puis, c'est Paris, numéro 2. Numéro 3, ce sont les Néerlandais.
Ah oui. Donc c'est extrêmement intéressant, ça, parce qu'on peut se dire aussi qu'avec l'amitié que peut avoir Geert Wilders avec M. Orban, Christophe De Vogt, il y a aussi la possibilité de se dire une autre Europe est possible de leur côté, une Europe plus souverainiste, contre l'Europe peut-être dont Emmanuel Macron est le représentant. Mais néanmoins, pour l'instant, on voit bien que la voie européenne est une voie un peu médiane pour les Néerlandais.
Oui, et Caroline de Rivière, qui connaît très, très bien, je le signale pour vos éditeurs, très très bien la France évidemment, mais l'Europe et la politique européenne des Pays-Bas, a tout à fait bien souligné ce changement qu'il y a eu avec Rutte, qui a été vraiment, vous savez, les Néerlandais parlent de bromance, entre Macron et Rutte, c'est-à-dire une histoire d'amour entre frères. Et on n'a jamais vu autant de contacts, bon, servis aussi par de bons ambassadeurs, il faut rendre aussi, les diplomates servent beaucoup des deux côtés. Et ça a été véritablement, je crois que je n'ai jamais connu, je fréquente les Pays-Bas depuis quelques décennies, je n'ai jamais connu une période aussi faste dans les relations entre les deux pays. Mais cette période est en train de s'achever.
Ben oui.
Et quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron n'aura plus le soutien, qui que ce soit qui arrive au pouvoir aux Pays-Bas, le soutien qu'il a eu de Rutte, un soutien dans un pays commerçant, intéressé aussi, puisque Rutte a obtenu beaucoup davantage de la France, notamment lorsqu'il y a eu les grandes négociations sur les fonds, vous savez, sur l'endettement commun européen. Mm-hmm. Et il a obtenu beaucoup d'avantages, par exemple, notamment l'augmentation du nombre de députés néerlandais au Parlement européen. Mm-hmm. Donc, vous allez avoir un changement, ça il faut s'y attendre, un réel politique, la haie sera beaucoup moins en phase avec Paris. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, et Caroline Dorleter l'a rappelé, c'est que maintenant, tous les grands partis populistes, souverainistes, nationaux populistes, appelons-les comme ça, ont l'idée maintenant non plus de quitter l'Europe, mais de la changer.
Par l'intérieur.
Par l'intérieur.
C'est-à-dire de rentrer à Bruxelles et de se dire, c'est nous qui déciderons de ce qui se passera à Bruxelles.
Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Caroline, et ça, de peser à eux tous, et ma foi, ça n'est pas tout à fait invraisemblable quand on voit la force qu'ils acquièrent, qui se voit dans les sondages, dans les différents pays, et qui de toute façon va déplacer aussi le centre de gravité du Parlement européen. Ça, on l'oublie parfois à Bruxelles, mais qui ne passera plus, comme actuellement dans Renew, hein, c'était Renew le parti charnière, et là ce sera le PPE qui sera le parti charnière, et qui était traditionnellement le parti de droite. Mmh. Donc on va avoir des reclassements et des complications, en tout cas, assurées à Bruxelles, à voir les sondages dans tous les pays.
Et cela, ça vient aussi, on parlait tout à l'heure des anciens partis qui n'ont pas réussi à se maintenir. Bon, tout de même, le VVD donc, de M. Rutte est encore présent, solide, même s'il a perdu pas mal de sièges. Mais néanmoins, beaucoup des anciens partis ont éclaté, explosé, se sont, disons, divisés entre plusieurs tendances qui ont fondé leur propre parti. Et cela, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. En même temps, on a connu la même chose avec Emmanuel Macron fondant son propre parti en 2016. Mais d'une certaine manière, on se dit, peut-être va-t-on revenir à un régime en France qui serait plus marqué par la gauche et la droite. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas tout à fait le cas.
Alors, il y a deux choses. Il y a une vraie tradition que connaît très bien Caroline de Reuter aux Pays-Bas de ce qu'on appelait le cloisonnement, le verzuiling, c'est-à-dire le fait qu'il y avait un tas de petits groupes de pensée qui s'organisaient et dont on a encore des traces. Vous avez des partis protestants stricts, oui. Par exemple. Vous avez un parti protestant libéral. Vous avez donc encore ces idées cet esprit de secte au sens neutre du terme. Oui. Qui est assez typique aussi d'une mentalité protestante, ne l'oublions pas, hein. Et aussi très, dans un pays très fédéral, en tout cas où il y a beaucoup de libertés locales. Donc c'est pas du tout la culture politique française. À cela s'ajoute, eh bien, on peut dire l'éclatement, alors là c'est un fait général en Occident, l'éclatement des repères classiques, des partis traditionnels, mais aussi peut-être, ils doivent s'interroger, est-ce qu'ils ont répondu à l'attente de leurs électorats respectifs ?
Avec aussi la question de l'individualisme, etc., et voilà. Central, et qui fait que eh bien on se regroupe à quelques-uns pour peut-être fonder un parti qui aura une action momentanée qui disparaîtra peut-être au bout d'un certain temps. Caroline de Gruyter, sur cette question.
Oui, tout à fait. Et les petits miettes qui se sont coupées, comme Geert Wilders l'a fait lui-même, hein, de oui. La VVD,
oui.
dans plus grandes parties. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent l'accent sur les différences oui. Avec tous les autres partis. Donc, tout le monde est en train de parler, tous ces petits miettes sont en train de parler sur ce qui, sur leur désaccord et pas de ce qui les lie. Ça, c'est la grande difficulté. Et ils promettent vraiment tout. Et là, ça la rend très difficile pendant la formation d'un gouvernement. Mmh. Pour faire des compromis oui, et les vendre.
Et pour trouver une union. Et d'ailleurs, parmi ces petites oui. Miettes, en l'occurrence, un ancien de l'appel chrétien-démocrate, Peter Omtzigt, c'est comme ça qu'on prononce son nom, a créé un nouveau parti, le NSC, qui a eu un certain succès et qui peut-être pourrait vouloir tirer son épingle du jeu. C'est un parti de centre-droit, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et il pourrait imaginer, dit-on dans la presse, un gouvernement de technocrates, comme on en a connu en Italie, quand on n'arrivait plus à faire des coalitions.
Voilà, actuellement d'ailleurs, l'hypothèse qui est mise en avant par les informateurs, donc les ingénieurs hein, de la coalition, ce serait un gouvernement qu'on appelle aux Pays-Bas extra-parlementaire, avec un gouvernement aussi de programme, c'est-à-dire des ministres essentiellement techniques ou des seconds couteaux politiques, mais l'accord se ferait au niveau de la majorité du Parlement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas Wilders dans le gouvernement, on n'aurait pas Omtzigt, on n'aurait pas Caroline van der Plas, donc les grands leaders, ou Madame Jezilgeus, la patronne du VVD, on ne les aurait pas au gouvernement, mais ils seraient les chefs des groupes parlementaires, donc ce serait une assemblée avec donc des technocrates dans le gouvernement et un régime extra-parlementaire.
Ça s'est déjà produit, ça ?
Ça s'est déjà produit. Pas très longtemps, c'est en général dans les périodes un peu intermédiaires. Et je crois que c'est une possibilité, en tout cas pour une période intermédiaire, parce que c'est quand même un pays politique où on aime bien que les leaders, c'est une démocratie très représentative, les Pays-Bas, mm-hmm. on aime bien que les leaders soient quand même au gouvernement, tôt ou tard.
Mm-hmm. Est-ce que vous observez dans toutes ces questions, en tant que journaliste néerlandais spécialiste des questions européennes, Caroline de Gruyter, est-ce que les élections européennes arrivant à grands pas peuvent changer quelque chose justement à cette composition d'une coalition à La Haye, ou est-ce que au bout du compte, ça n'a pas, ce sont deux échéances qui n'ont pas grand-chose à voir? J'aime bien votre rire.
C'est très difficile à dire. Les Néerlandais sont vraiment complètement préoccupés avec ces grands travaux à La Haye. Mmh. Et ils sont devenus des nombrilistes. Et donc, ce qu'on peut dire maintenant dans les sondages, parce que tout ça, la formation d'un gouvernement, donc les négociations ont pris tellement de temps, 6 mois déjà, que M. Wilders, il a mis la responsabilité sur les épaules de partie des agriculteurs, mm-hmm. et le New Social Contract, M. Omtzigt. Donc, eux, ils sont en train d'un peu imploder, pas vraiment, mais de perdre. Mm-hmm. Et lui, il monte. Donc, le résultat des Européennes pourrait être qu'il va favorable. Gagner un peu plus. Il mm-hmm. est sur la liste, d'ailleurs. Hein. C'est pas la première fois, mais il part jamais à Bruxelles. et je pense que le VVD, qui a fort perdu en novembre, ce sont les électeurs qui ont voté à la fin pour Wilders. Elle va regagner en tout petit peu. Et moi, je pense, si on arrive d'ici quelques jours à former un gouvernement de droite, qui est logique, qui doit être fait, je pense, qui a les meilleurs candidats qui a pour gouverner, c'est le VVD. Et ils ont des gens plus
donc le parti de Monsieur Rutte qui a abandonné la possibilité d'être encore au pouvoir.
Ils ont la tradition, une longue tradition sur tous les niveaux de gouvernement.
Sur ce point, Christophe De Vogt, vous êtes d'accord avec l'analyse de Caroline?
Oui, je pense que bon, si la coalition ne se fait pas dans les jours qui viennent, je pense que les élections européennes vont quand même jouer un peu ce qu'on appelle le rôle de juge de paix. Est-ce que le PVV annoncé haut dans les résultats de ces élections va encore marquer un point, ou est-ce que ce que dit Caroline de Reuter est assez juste, ou est-ce que les partis traditionnels et notamment les libéraux ne vont redresser la tête? En tout cas, affaire à suivre.
Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir aussi précisément expliqué ce système assez complexe des élections et des coalitions aux Pays-Bas. Christophe De Vogt, vous êtes président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondation pour l'innovation politique et vous avez produit une étude pour cette fondation, donc Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen. Avec nous était Caroline de Gruyter, donc journaliste néerlandaise, spécialiste des questions européennes et autrice de l'ouvrage Monde d'hier, monde de demain. Le temps du débat a été préparé ce soir par Juliette Moellic, Fanny Richet, Sacha Mattei, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec Alex Dang à la technique.